France Inter.
Bonjour.
Le 28 avril 1985, François Mitterrand participe à une émission spéciale sur TF1. Un rendez-vous crucial pour le chef de l'État qui sent que la droite revient en force. Il a besoin d'un second souffle, quelque chose qui passerait par un buzz à la télé, par exemple. Eh bien, Yves Mourouzi va s'y coller. Au cours de l'interview, il pose une fesse sur le bureau où le président de la République est installé pour l'interview. Qui aurait osé faire ça? Personne. Sauf Mourouzi, à qui on pardonne tout, tant son audace est grande. Étonnant présentateur qui fait peindre son blouson durant le journal par l'artiste Keith Haring, présente le journal de 13h portant imperméable et lunettes noires le jour du putsch de Jaruzelski en Pologne, où arrive, coiffé d'un casque de chantier, quand Bouygues fait ma basse sur TF1. Exceptionnel jusqu'au bout, Yves Mourouzi est aussi le promoteur du JT délocalisé, dans un hôpital durant une opération à cœur ouvert, dans un hélicoptère, dans une centrale nucléaire à Scotland Yard, sur la place Rouge ou sur la place Tiananmen. Mais il ne fait pas d'information spectacle. Il met en scène l'information. Et c'est différent. Notre invité aujourd'hui est la journaliste Marie-Laure Augry, co-présentatrice avec Yves Mourouzi du 13h de TF1 de 1981 à 1988. Une présence indispensable à l'équilibre de ce journal de la mi-journée. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Kuhn.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
Véronique Mourouzi, bonsoir.
Bonsoir.
Yves, bonsoir.
Bonsoir.
Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Yves, fais-moi plaisir, dis-moi bonsoir comme tu dis bonjour tous les jours à la télé.
Bonsoir.
Très bien. Oui. Tu connais Michel Drucker ?
Très bien.
Pose-lui une question, toi, maintenant.
Comment fait-il pour présenter le journal de la mi-journée de TF1 en étant à 2h30 du matin, presque tous les jours, au bain-douche ?
C'est une question que j'avais préparée.
Vieille habitude. Vieille habitude, j'allais dire réflexe physiologique normal.
Bonjour.
4 mars 1988, Club des Bains-Douches, Paris. Cela fait 10 ans que cette boîte de nuit électrise la capitale avec sa piscine, son dance floor aux allures de damier signé Philippe Stark et ses nombreuses stars. Parmi elles, Yves Mourouzi, à la fois journaliste et oiseau de nuit. Il fume beaucoup, boit souvent, et certains disent qu'il touche à la drogue, occasionnellement. Ce qu'on ne cherchera pas à savoir ici, ça le regarde. Non, ce qui est intéressant, frappant, voire fascinant, c'est qu'après une nuit au bain-douche, le lendemain, Mourouzi assure. Et c'est sans problème qu'il présente le 13h sur TF1 devant des millions de téléspectateurs et sans prompteur, s'il vous plaît. Une prouesse aux yeux de bien de ses confrères. Voilà pourquoi, dans l'émission Bain de nuit, Thierry Ardisson et Michel Drucker lui demandent quel est son secret. Une question qu'il pose aussi à son épouse, Véronique, assise à ses côtés. Étonnant ? Pas vraiment. En ces années 80, rien de plus normal que d'exposer sa femme devant les caméras. Allure aristocratique à la Inès de la Fressange, en l'occurrence gouaille, provocatrice. Le couple Mourouzi fait la paire.
Nous avons, Véronique et moi, des invités auxquels nous tenons encore plus que les photos. Et deuxièmement, nous souhaiterions surtout que M. le maire puisse arriver à sa place.
Preuve en est ce mariage fastueux, leur mariage, organisé les 27 et 28 septembre 85 à Nîmes, durant la Feria des Vendanges. Un événement que Mourouzi a l'idée de faire sponsoriser. Cardin pour les tenues, Cartier pour les alliances, Mercedes pour la voiture des mariés, qui ont droit au modèle 600, le même que le pape et le roi du Maroc, Pernod pour le pastis, Zingaro pour le cirque et Ruggieri pour le feu d'artifice. On installe des postes de télé dans les rues, mais aussi 1600 projecteurs et 15 000 bougies afin d'accueillir 2 000 invités. Parmi eux, Albert de Monaco, Jack Lang, Jacques Chazot, Charles Aznavour, qui chantent l'Ave Maria dans l'église. Quant aux témoins de Mourouzi, force est de constater qu'ils sont eux aussi furieusement dans l'air du temps. Ce sont Bernard Tapie et le maire de Toulouse, Dominique Baudis, qui signe le registre avant de rejoindre les mariés sur le balcon de l'hôtel de ville, sous les vivas, façon famille royale. Too much, tout cela, et épouvantablement bling-bling, sans doute. Alors, certains ne résistent pas à l'idée d'un happening pour railler l'événement. 3 jours avant le mariage, voici Coluche, qui apparaît en calèche dans les rues de Paris, en perruque blonde et robe de mariée blanche, aux côtés de Thierry Le Luron, en queue de pie et haute forme. Et le faux marié Le Luron qui s'exclame...
À chacun des époux en général et en particulier.
Notre mariage est bidon. Nous n'avons pas peur de le dire, nous. Et nous n'espérons pas avoir beaucoup d'enfants, mais beaucoup d'articles et de photos dans vos journaux. Qu'on ne nous accuse pas surtout de moquer d'une institution, d'autres que nous vont s'en charger bientôt plus sérieusement.
Mais pourquoi une telle parodie? Que reproche-t-on à Yves Mourousi? Son goût du faste, la démesure candide de son mariage, probablement, et même plus. Nous sommes encore dans les années 80, une époque où le combat libératoire des LGBT n'en est qu'à ses balbutiements. Alors on insiste lourdement sur la vie privée de journalistes. Lui qui, durant des années, a assumé son homosexualité en passant ses nuits dans des clubs comme le 7 ou le Colony, situés dans le quartier Homo de Paris. Thierry Ardisson s'en souvient. Dans le livre « Yves Mourousi, ombre et lumière », il raconte à Christophe Carrière. À cette époque, Yves était un mec en short de cuir avec des chaînes et une casquette de motard. Pour son ami, l'ancien flic Eric Young, devenu journaliste, Yves était dans les clubs gays comme un poisson dans l'eau, passant de l'un à l'autre jusqu'au bout de la nuit. Témoignage confirmé par son chauffeur Alain Vandenberg. J'avais beau le raccompagner chaque soir, très tard, je le trouvais parfois avec quelqu'un le lendemain. J'en déduisais qu'il était ressorti. Et il ne s'en cache pas. Preuve en est avec l'interview qu'il accorde en 84 à Magazine, l'ancêtre de la revue Têtu, où il évoque cette homosexualité.
Bonjour.
Bon, ça ne pose de problème qu'au réac, mais il y a plus gênant aux yeux de la société et son habituel train de retard face aux évolutions du monde. On juge donc Mourousi trop star, incontrôlable. Il est à la fois journaliste et l'une des icônes des gazettes style Paris Match. En ces années 80, rien n'est plus branché que d'exposer son corps bronzé aux UV et ses succès financiers. Le libéralisme est perçu comme moderne, la win est hautement recommandée. Faites du fric. Les as de la pub et de la com vivent leur décennie dorée. Alors ils s'en donnent à cœur joie, c'est le règne du matu-vu. Sauf que Mourousi n'est ni chanteur, ni acteur, ni couturier. Il est journaliste, doublé d'un électron libre. Et il n'a que faire de sa hiérarchie, ni de la neutralité requise, comme l'explique Guillaume Durand sur Canal+, en 1998.
Le Mourousi, maintenant, on a tendance à le juger par rapport à une certaine légèreté, voire à un certain manque de rigueur. Mais en fait, il faut se souvenir de ce que c'était que la télévision d'avant, une immense télévision de l'HQ. Il a fait la révolution là-dedans.
Mais d'où vient ce goût pour l'anticonformisme? Ce n'est évidemment pas en école de journalisme qu'il a pu l'apprendre. D'ailleurs, il n'en a fréquenté aucune. Non, son parcours relève plutôt d'une suite d'accidents qui s'agrègent les uns aux autres et cachent, en réalité, une blessure secrète. Nous sommes en 1950. Yves a 7 ans. Né de père inconnu, il vit seul chez sa grand-mère à Bourg-la-Reine, en banlieue parisienne. Où est la mère? Elle est dans le journal. Mais pas journaliste, non, inculpée. Ce que relatent tous les journaux de l'époque, comme Le Monde du 13 janvier.
Princesse grecque, apparentée à de grandes familles européennes et très connue dans la société parisienne, Madame Euphrosyne Mourousi était poursuivie hier devant la Cour de justice en raison de son comportement durant l'occupation. À Nice, puis à Vichy, elle a dénoncé plusieurs Israélites russes, aussi bien à la police française qu'à la Gestapo. Ces dénonciations n'ayant pas eu de conséquences graves, la princesse n'a été condamnée qu'à 3 ans de prison et 20 ans d'interdiction de séjour sur notre territoire.
Mais il y a pire, les motifs. L'enfant Mourousi a-t-il lu vent de cet article ravageur paru en Une de l'Humanité qui détaille que sa mère était une toxicomane, que le rapport psychologique émis par la cour la présente comme une aventurière perverse, homosexuelle et morphinomane, qu'elle mena la grande vie avec des officiers nazis et qu'elle fut chargée par la Gestapo d'espionner des résistants. Face à une réalité aussi douloureuse, l'enfant n'a d'autre choix que de s'inventer une vie plus honorable. Officiellement et durant des décennies, l'absence de ses parents sera due à un accident de voiture tragique. Des fenêtres de chez sa grand-mère, Yves contemple le grand manège installé juste en face de lui, qui le fait rêver. Il sait qu'il vient d'une famille d'aristocrates russes et de hauts dignitaires grecs. Mais son quotidien lui paraît si morne, si décalé. Admis au lycée Lacanal de Sceaux, le voilà qui monte des pièces de théâtre et dirige la chorale des scouts. L'uniforme, les groupes, les fanfares, ça lui parle. D'autant qu'il n'a aucun problème à imposer son autorité. Son rêve est alors de devenir artiste ou diplomate. Mais sa grand-mère se méfie de ce choix. Il fera donc du droit, comme tout garçon de bonne famille. Mais quel ennui le droit pour le jeune Morosi qui ne rêve que de charivari. Le tournant de sa vie, c'est Alain Spira qui le raconte dans Paris Match en 1998.
Pour vivre, le jeune étudiant s'est trouvé un petit boulot. Mesurer les pièces des immeubles afin de vérifier leur conformité au plan. Mais un jour, sa grand-mère prend le thé avec Henri Poumerol, qui œuvre à France Inter comme patron d'Inter-Service Jeune. La vieille dame lui fait part du désarroi de son pauvre Yves, que ses activités ennuient. Et c'est ainsi qu'à 24 ans, Yves entre à l'ORTF, où il commence par trier des fiches. Quai Kennedy, il trouve un palais à sa démesure.
Un palais à sa démesure. Pas encore, pas tout de suite. Pour qu'il puisse se démarquer, d'abord il faudrait un événement, une émission spéciale où on le laisserait prendre le micro pour qu'il déroule son propos en toute liberté. Car le direct l'attire. C'est comme si, organiquement, il possédait le sens du danger, le chemin de l'adrénaline. Mais comment faire pour s'imposer au milieu de tous ces journalistes aguerris? D'abord, les observer. Ce qui n'est pas très difficile, ils se ressemblent à peu près tous. Eh bien, il faut faire différemment. Se démarquer. Et c'est à l'été 67 qu'arrive l'occasion. Toujours stagiaire à l'ORTF, Morosi est invité par la famille de sa fiancée à séjourner dans le Béarn. Bien, les jours s'écoulent, tranquilles, jusqu'à ce que le 13 août à 23h08, un violent séisme détruise la commune toute proche d'Arrête. 7 minutes plus tard, une réplique de magnitude 5 décroche le clocher de l'église. C'est le séisme le plus violent qu'ait connu la France métropolitaine depuis celui de Lambesc, au début du siècle. Alors immédiatement, le jeune Yves appelle la gendarmerie. C'est Yves Morosi de l'ORTF. Et à l'époque, l'ORTF, c'est l'État. Alors immédiatement, la maréchaussée le laisse entrer dans le village avant tous les autres journalistes. Il arrive même avant Jacques Chirac, alors secrétaire d'État aux Affaires sociales. Et 4 jours durant, c'est Morosi qui tient l'antenne en direct, comme ici, le 15 août, sur France Inter.
En ce qui concerne les mesures de reconstruction, c'est ce dont on a parlé beaucoup au cours de la réunion de ce matin. Cette démolition, du reste cet après-midi, on en parlera beaucoup. Il s'agira un peu de l'attraction, puisque la décision a été prise par le préfet des Basses-Pyrénées. On démolira cet après-midi ce qu'il reste du clocher et pour cela, on mettra un gros pétard. Les services des pompiers mettront un gros pétard dans le clocher qui, on l'espère, s'écroulera sans entraîner trop de dégâts.
Un gros pétard dans le clocher, c'est un peu cavalier, voire fumeux. Osé en tout cas pour un débutant, mais ça passe. Et puis pour la direction de la rédaction, c'est une aubaine d'avoir sur place un journaliste arrivé avant les autres. Mais de retour d'Arrête, Morosi croise la déesse des parents de sa fiancée qui lui apprennent que la jeune fille n'a pas du tout apprécié qu'il l'ait délaissée comme ça, goujat, et que le fiançailles sont rompus. Même pas mal. Mieux même. Pour le jeune homme, la vie, la vraie, peut commencer.
C'est ok, tu es. Après quoi, tu es KO, tu es out. C'est idem pour la boxe, le ciné, la mode et le cashbox. Moitié bouillon, ensuite moitié gin. Gemini carbure pas au mazout. C'est extrêmement pop. Si t'es à jeun, tu tombes en syncope. Yeah. 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 nitroglycérine. Cet opus palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine, il y a foule pour les petits gars de Liverpool. Barbarella, garde tes bottines et viens me dire une fois pour toutes que tu m'aimes, ou sinon je te renvoie à ta science-fiction.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Yves Mourouzi.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Interactualité Magazine, Yves Mourouzi.
Bonjour.
Novembre 68. C'est peu dire que le coup de force d'Yves Mourouzi lors du séisme a payé. Il y a gagné l'estime de sa rédactrice en chef, Jacqueline Baudrier, qui l'embauche et qui lui confiera plus tard le journal de 13h. Il y lance son premier bonjour qui, d'emblée, ringardise la formule du madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Plus empesé, tu meurs. Résultat, 2000 lettres de protestation, plus une note de service. Mais Mourouzi tient un bon. Et il a raison, car ce bonjour imprime sa marque. Désormais, il est reconnaissable entre tous, le Graal en radio ou en télé, et furieusement moderne de surcroît. Et c'est précisément parce qu'il est moderne que la chaîne lui confie une interview cruciale, celle du ministre de l'Éducation Alain Perfit, le 6 mai 1968.
Monsieur le ministre, ce calme, tout le monde le cherche actuellement, et peut-être que l'entretien que nous allons avoir ce soir, peut-être que les questions que je vais vous poser pourraient aider justement à le rétablir, car c'est la première fois que le ministre de l'Éducation nationale se penche sur le problème de ces violences d'étudiants. Violences d'étudiants qui ont entraîné, monsieur le ministre, l'annonce de la fermeture de Nanterre et de la fermeture de la Sorbonne. Monsieur le ministre, vous avez 42 ans, vous êtes entré au gouvernement à 36 ans, il n'y a pas si longtemps donc vous étiez encore étudiant vous-même. Vous sentez-vous du côté des jeunes ou du côté des anciens ?
Ah, ça change de Michel Droit, l'intervieweur attitré des puissants qui s'excusait de poser une question avant de la poser. Alors forcément, la méthode Mourouzi secoue, savoureuse même. 30 ans plus tard, le même Alain Perfit s'en souvient dans les colonnes du Figaro et il dit « Je l'ai connu jeune journaliste de l'ERTF, accrédité au ministère de l'Éducation nationale. Au début de mai 68, il m'interrogea avec tant de mordant que le général de Gaulle le prit pour un de ces enragés qui voulaient déclencher la révolution. » Mais il devait, dans les jours suivants, interroger Jesmar Cohn-Bendit avec tout autant d'indépendance d'esprit. Et c'est bien ça qui plaît. C'est donc à lui que le patron de la toute nouvelle chaîne TF1 pense pour animer le 13h. Nous sommes en 1975. La télé est en pleine effervescence. D'entrée de jeu, Mourouzi assène son fameux « Bonjour ». À une France ronronnante, n'utilise pas le prompteur et demande au comédien Michel Croton, par exemple, de réciter la tirade d'aînés de Sina. Cyrano en direct. Le patron de l'info, qui en classique patron de l'info a peur de tout, et de sa hiérarchie et de pouvoir, descend en hurlant. Peine perdue, le public lui adore. La suite est à l'avenant, audace, inventivité, impertinence. En quelques mois, Mourouzi devient le spécialiste des coups. En octobre 76, il est le premier étranger à rencontrer Brejnev au Kremlin, là où aucune caméra occidentale n'était jamais entrée. Un événement télévisuel majeur.
Eh bien, monsieur le secrétaire général, d'abord, merci de nous accueillir aujourd'hui avec la société de télévision. Je crois qu'au-delà de la société de télévision, c'est la France que vous recevez à travers les caméras aujourd'hui dans ce bureau du Kremlin, où il ne vous est pas coutumier d'accorder une interview aussi. Soyez-en profondément remerciés. Je suis sûr que les Français qui vous connaissent, monsieur Brejnev, accueilleront avec beaucoup d'intérêt vos déclarations. Ils vous ont vu souvent en France, en 1971, ensuite en 73 et en 74. Et je crois pouvoir dire qu'ils vous aiment bien. Vous êtes un personnage qu'on aime bien en France, monsieur le secrétaire général.
Un peu carpette, cette introduction tout de même. Morosi n'était pas toujours transgressif. Mais bon, le Kremlin, la solennité des lieux, Brejnev qui ne passe pas pour un joyeux de rire, peut-être fallait-il un peu en rajouter dans la bienséance. En tout cas, dans la foulée, Morosi visite le Bolchoï avant de se rendre sur la base spatiale ultra-secrète de Baïkonour, un petit exploit. 4 mois plus tard, il accueille sur son plateau le crack des hippodromes, le trotteur Bellino 2. Oui, un cheval dans le studio. Puis convainc Iggy Pop à faire le show après avoir bamboché toute la nuit avec lui. L'année suivante, il transforme le plateau en ménagerie en accueillant un jaguar à l'occasion du Noël des animaux. Et il assume « J'ai fait le choix d'intégrer la culture même populaire au sein du JT ». On avait compris. Mais évidemment, grincement de dents chez certains intellectuels qui commencent à s'interroger. Ce type fait-il de l'info ou du spectacle ? Reste que cette façon de vivre sous le signe du show permanent n'est pas sans risque. Dans la nuit du 30 octobre 1978, une bombe explose dans l'appartement de Morosi, boulevard Suchet. Ce qui n'empêche pas de rejoindre l'antenne quelques heures plus tard, imperturbable.
L'explosion d'une extrême violence n'a fait par bonheur aucune victime grave. Et si Yves Morosi, visé par l'attentat, est sorti indemne des décombres de son appartement au premier étage de l'immeuble, il s'agit d'un véritable miracle. Yves Morosi était à ce moment-là étendu sur son lit, heureusement protégé par un bureau massif scellé dans la paroi. Et c'est ce bureau qui a arrêté les débris de mobilier transformés en projectiles. Un incendie s'est aussitôt déclaré et notre confrère n'a eu que le temps de sauter dans la rue. Et si les pompiers ont pu rapidement maîtriser le feu, l'engin placé sur le palier de notre présentateur a toutefois blessé légèrement 12 habitants de l'immeuble et provoqué des dégâts importants.
Je ne ferai aucun commentaire sur cet attentat et je remercie tous ceux qui ont eu la sympathie de me témoigner leur sympathie ce matin.
Le choc est tout de même considérable. Mais enfin, qui veut tuer la star du journal ? Eh bien, c'est un étrange groupuscule, le SFAR, section franco-arabe du Refus, qui reproche au journaliste, je cite, « ses attaches juives ». Avec 20 kilos TNT posés devant sa porte, c'est un véritable miracle qu'il en ait réchappé. Pour autant, cela ne l'empêche pas de continuer à mener la grande vie, façon de montrer que rien ne l'effraie. La même année, il crée la fête du livre aux Tuileries avec Force Forain et éditeur. Tout en devenant chargé de mission pour Jean-Pierre Soisson, ministre de la Jeunesse et des Sports, dans le dossier des deux roues, les motards en colère. Les motards sont toujours en colère, c'est une seconde nature. Étrange mélange des genres, tout de même, pour un journaliste. Peu importe, il devient Monsieur Moto, et participe même au bol d'argent sur le circuit Paul Ricard, où il termine 28e sur 80. Dingue, une vie à fond la caisse. Un mois plus tard, il embarque TF1 à Pékin, sur la place Tiananmen.
Ni hao, cela veut dire bonjour. Il est 8 heures ici à Pékin. Des centaines et des milliers de jeunes Chinois aujourd'hui sur la place Tiananmen pour assister à cette édition spéciale de TF1 Actualité en direct de Pékin. Et je voudrais tout de suite vous dire à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ni men hao. Nous nous sommes salués à la chinoise. Et ce petit garçon va m'accompagner jusqu'à Gérard Saint-Paul sur cette place Tiananmen illuminée.
En 81, ce n'est pas Ni Hao qui lance, mais Dzień Dobry, c'est-à-dire bonjour en polonais. Dans la foulée de l'état de siège imposé par le général Jaruzelski à son pays, mais surtout, idée de génie, il déboule à l'antenne en imperméable, façon police politique d'un pays de l'Est, et portant des lunettes noires comme Jaruzelski, justement. Mai 81, c'est aussi l'année de gloire du Parti Socialiste. Tandis qu'on l'imagine anard de droite, concept qui reste à préciser, ou giscardien, ça c'est plus clair, on promet à Morosi le pire. Or, voilà qu'il sauve sa tête et reste à l'antenne. François Mitterrand l'aurait-il épargné ? Ou serait-ce un geste de Charles Hernu, le ministre des Armées qu'il connaît si bien ? Mystère. En tout cas, le voilà plus puissant que jamais. C'est même lui qui est choisi, 4 ans plus tard, pour une interview spéciale de François Mitterrand. Un an avant les législatives de 86, chacun le sait, la cote de popularité des socialistes est au plus bas. L'idée du communicant Jacques Pilan, que certains nomment le sorcier d'Élysée, est de faire appel à Morosi pour booster l'image du président. Et c'est là que le journaliste pose une fesse sur le bureau de ce président hiératique et si impressionnant. Mais pas pour tout le monde, la preuve.
Vous savez ce que c'est que Chebran ?
Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que ça veut dire brancher, bien entendu. Je ne vais pas faire le malin, très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé.
C'est craignos.
Ça se comprend moins bien. Je ne sais pas très bien la signification. Ça veut dire peur ou ça veut dire c'est moche quoi. Je ne sais pas.
C'est pas terrible.
Bon.
Et c'est l'enfer.
C'est l'enfer. Ça... Oui, l'enfer, c'est rarement désirable.
Quoi, c'est l'enfer, la vie de président.
Non, pas du tout.
C'est difficile.
Si c'est l'enfer, ça veut dire c'est difficile, c'est l'enfer. Mais si ça veut dire, bon, la Divine Comédie, non.
Des magots, peut-être. Mais la jeunesse apprécie. Et Morouzi se sent pousser des ailes. En deux décennies, lui, l'orphelin honteux de Bourg-la-Reine, est parvenu à conquérir le tout Paris. Rastignac peut aller se rhabiller. Morouzi se permet même de sortir un disque pop intitulé 19, où il raconte en talk over la guerre du Vietnam sur un mode journalistique. Plus branché que jamais, pour ne pas dire câblé, il ouvre son propre club, Le Look, au cœur des Halles. Quelle liberté! D'autant que dans sa vie privée, ça bouge aussi. Le 13 septembre 84, invité à dîner chez son ami Charles Hernu, il rencontre une jeune femme au regard mordant. C'est Véronique Audemars d'Alençon, fille d'un colonel et petite-fille du fondateur de la banque Worms, nationalisée par François Mitterrand. Le coup de foudre est immédiat, le mariage signé un an plus tard. Sur la scène publique, plus rien ne résiste à Yves Morouzi, pas même le pape, qui accepte une audience et bénit le ventre rebondi de Véronique, laquelle donne naissance à une petite Sophie. Morouzi déclare: la naissance de Sophie, c'est un pied de nez monstrueux, une espèce de jouissance que nous partageons, Véro et moi, face aux hypocrites qui ont cru que notre mariage n'était que calcul machiavélique et qui nous font aujourd'hui de grands sourires. Quelque chose trappe aussi. Au printemps 87, TF1 est privatisé. Morouzi invite Francis Bouygues, son nouveau PDG, à dîner à son domicile. Autre temps, autre mœurs. Ce journaliste, on l'aura compris, est du genre tout à l'ego. Les ponts d'or qu'on lui fait partout, ils sont sûrement pour quelque chose. Effectivement, difficile de résister à tant de gloire. Toujours est-il que chez lui trône ostensiblement des photos de lui, bien sûr, entouré de stars, évidemment. Et qui est cet homme à côté de vous, demande Bouygues. C'est Carayonne, monsieur le président. Ah, et ce jeune militaire-là, c'est David Bowie. Morouzi fanfaronne. Mais il ne comprend pas qu'il agace. Selon le journaliste Pierre Péan, il est alors le mieux payé de sa profession en France. Or, ses audiences s'érodent et plafonnent à 13%, alors que sur Antenne 2, le nouveau couple William Lémergie-Patricia Charnelet monte à 14%. Est-ce à dire que le public se lasse de lui et de ses accointances bizarres? Pourquoi présente-t-il Jean-Marie Le Pen à Patrick Lelay? Était-il indispensable de mettre en scène le meeting de campagne de Michel Noir, le futur maire de Lyon, et d'être le témoin de mariage de Pierre Botton, le sulfureux? Alors, Morouzi, est-il un people, un politique, un clubbeur, un père de famille? Comment lui faire confiance? Et puis surtout, le mélange des genres qui pose question. En février 88, lors d'une interview de Johnny Hallyday, qui ressemble en tout point à un public reportage, voilà qu'il accueille sa femme, Véronique, à ses côtés, avant de la prendre sur ses genoux et de l'embrasser. Et cette fois, c'en est trop. Il est viré.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. S'il n'est pas superstitieux, Yves Morouzi va peut-être le devenir. Il ne présentera plus à partir de jeudi le journal de 13h sur TF1 qu'il présentait depuis 13 ans. Ainsi en a décidé la direction de la première chaîne, en précisant que c'est à sa demande qu'Yves Morouzi est dégagé de la charge de ce journal pour se consacrer à la préparation de programmes très importants et notamment d'émissions spéciales pendant la campagne électorale.
Se contenter de la préparation des campagnes électorales, un euphémisme pour désigner un placard. De toute façon, sa voix rauque ne fait plus rêver. Alors il explique au magazine Globe. Je me suis tué moi-même. J'aurais dû quitter la chaîne lors de la privatisation. Si je ne l'ai pas fait, c'est sans doute par goût de l'argent facile. Mais je n'étais pas fait pour le secteur privé. Non, je n'ai rien à faire sur une chaîne qui peut couper la parole à un prix Nobel sous prétexte que c'est l'heure de la pub. Non. Le vrai problème, c'est que 50% des téléspectateurs m'adoraient et que les autres me détestaient. Or, à TF1, il faut faire l'unanimité. Et je n'ai pas ce profil. D'autant que le système médiatique est à vide et qu'il a besoin de nouvelles têtes. Impuissant, Morouzi assiste à l'ascension de Canal+, qui ne fait pas appel à lui. Son ancien comparse, Michel Denisot, s'y épanouit. Antoine de Caunes y déploie ses talents. Les directs au Festival de Cannes s'institutionnalisent sans lui. Avec les 4 millions que TF1 lui verse en guise de dédommagement, il embarque femme et enfant à Tahiti, où il claque tout en 6 mois. Un an plus tard, il n'a d'autre choix que d'accepter la proposition d'Hervé Bourges de devenir conseiller à la direction d'RMC, où il avoue s'emmerder. Une situation qu'il tente de prendre avec humour, comme ici au micro de Christine Bravo dans son émission Foufrou.
Je suis directeur délégué Radio Monte Carlo.
Mais qu'est-ce que vous faites alors? C'est quoi votre...
Je conseille le directeur général.
Oui, mais ça vous prend pas toute la journée.
Ça dépend du moment où il a besoin d'être conseillé.
Oui.
Il se réveille le matin, il dit « Ah, j'ai besoin d'un conseil ». Le soir, il est tard, il a besoin d'un conseil, j'y vais.
Voilà, et entre-temps, vous faites quoi?
Eh bien, s'il a besoin d'un conseil entre les deux, j'y vais aussi.
D'accord. Il plaisante, mais le pire est à venir. Le 30 juin 92, sa femme Véronique lui organise une surprise à leur domicile. Des dizaines d'amis sont présents pour fêter ses 50 ans, qui tomberont 15 jours plus tard, d'où la surprise. Voilà qui remonte le moral. Et tous le lui disent « Vraiment, Véronique est épatante ». Alors, en guise de discours, il les convie tous à fêter leurs 7 ans de mariage en septembre. Mais cela n'arrivera jamais. À l'issue de la fête, Véronique s'effondre, victime d'une méningite virale foudroyante.
Le pire des anniversaires pour Yves Mourouzi, le jour de ses 50 ans, il enterre sa jeune épouse Véronique, tuée par une forme particulièrement aiguë de méningite. Obsèques ce matin à Paris à la chapelle de l'école militaire. Stéphane Reynaud.
Ce midi, des monceaux de fleurs blanches emplissaient la chapelle de l'école militaire. Sur le perron, plus de 50 couronnes, le cirque Bouglione, les Folies Bergères, Paulette Cocatrix et tant d'autres qui avaient tenu à rendre hommage à Véronique Mourouzi. Parmi les 200 personnes présentes à la cérémonie, des stars du showbiz, des journalistes et des hommes politiques, il y avait Mireille Darc, Eddie Barclay, Mireille Mathieu, mais aussi Bruno Mazur, Christine Ockrent, Bernard Kouchner et l'avocat Jacques Vergès. Yves Mourouzi avait voulu que cette cérémonie soit la plus belle jamais donnée à Paris. Il avait fait venir les chœurs des enfants d'Ukraine et ceux de l'église orthodoxe.
Les années qui suivent signent une sorte de descente aux enfers. Yves Mourouzi n'hésite pas à le dire. Seule la présence de Sophie, sa fille, le maintient en vie. Victime d'une dépression, il quitte RMC et pointe au chômage. Lui qui, 10 ans auparavant, gagnait 250 000 francs, soit l'équivalent de 75 000 euros par mois. Conscient de sa valeur, son ami Thierry Ardisson lui offre une interview dans son émission Télézèbre. Mais est-ce à sa hauteur? Alors il tente des comebacks. En 1994, il annonce qu'il brigue la présidence de Radio France au terme du mandat de Jean Maheu pour, je cite, « redynamiser le personnel et adapter les programmes à l'auditoire de demain ». En vain. Puis le voilà qui lorgne le fauteuil d'Anne Sinclair à 7 sur 7 avant de comprendre que c'est sans espoir. À 54 ans, la voix usée, le moral en berne, il convainc Jean Tiberi, le maire de Paris, de lui confier les festivités de l'an 2000. Voilà qui devrait redorer son image et lui permettre d'élever la jeune Sophie comme il l'entend, avec force déjeuner au Fouquet's et virer à Disneyland Paris. On ne descend pas si aisément d'un piédestal. Alors, il s'accroche à son rôle de commissaire de la mission Paris 2000. Mais il ne convainc pas. Car enfin, n'est-il pas étrange de confier à cet homme du passé la vision du troisième millénaire de la capitale? Alors on grimace, on fait la moue. Lui rêve d'un œuf géant pondu par la tour Eiffel, de gentrifier le bassin de la Villette avec un resto Guy Savoy, de créer un décor Belle Époque sur les grands boulevards ou de transformer l'Arsenal en galerie d'art. On lui répond désordre et projet fourre-tout. On lui reproche l'absence de grands shows façon Jean-Paul Goude. Étrange impression que de se sentir si has-been lorsqu'on a été le journaliste le plus incontournable du pays. Le 7 avril 1998, après avoir répondu à des journalistes russes, Mourouzi rentre chez lui pour se reposer et chute en sortant de son lit. Appelé en urgence par la nurse de Sophie, le SAMU tente un massage cardiaque. Sans succès. À 20h40, pour lui, la fête est finie. En tout cas, il aura marqué la profession de journaliste comme peu avant lui. On retiendra bien sûr, et surtout son audace. Si Dieu existait, sûr qu'il aurait réussi à l'inviter sur son plateau.
Et simplement, moi je sais pas, dites-le au revoir Yves.
Au revoir, et à demain à 13h.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Yves Mourouzi, notre invité Marie-Laure Augry. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Fidèle partenaire professionnel d'Yves Mourouzi, co-présentatrice du 13h de TF1. Alors la particularité, c'est que nous racontons une histoire que nous n'avons pas vécue personnellement. Vous l'avez vécue.
Oui, bien sûr.
Et ça, c'est intéressant.
Il y avait des moments très émouvants.
Oui, j'ai vu.
Dans ce récit, oui.
Bah, bien sûr, de votre part,
c'est
normal. Ça fait
revivre plein de moments formidables, géniaux, et puis, des moments plus douloureux, mais qu'on a partagé, parce que le miracle et la chance que j'ai eue, moi, de travailler un jour avec Yves, c'est une chance professionnelle extraordinaire, parce que voilà, il suffisait de le voir pour apprendre. Mais ça a surtout été une histoire d'amitié très très forte. Et donc, c'est rarissime à ce point.
Jamais d'engueulade, jamais de tension.
Non, plutôt des rigolades. On pouvait pas être d'accord sur des trucs. Mais voilà. Et puis notre vie, elle s'arrêtait pas à la porte du studio. Je veux dire, en famille, avec les enfants, etc. On passait des moments, on partageait des moments extraordinaires. Voilà. Donc ça a été une belle histoire, une belle aventure, et une chance extraordinaire pour moi.
Alors, on va rectifier quelque chose, peut-être. Au début, on se disait, Marie-Laure Gris, c'est la petite main de Mourouzi, elle fait tout le boulot, elle lui fait la noce. Bon, j'imagine que c'était pas ça. C'était quoi la répartition du travail?
Alors, moi, j'avais besoin, pour moi, de filets de sécurité. Je veux dire, Yves, c'est un voltigeur, lui, il pouvait y aller. Moi, j'avais besoin de filets de sécurité. Donc, tout ce qui était l'actualité, le news, oui, c'est moi qui le rédigeais, parce que pour moi, c'était important.
Précis, Yves, rigoureux, ça passe par l'écriture, effectivement, ça sécurise.
Yves s'intéressait plus à la partie magazine. Et ce qu'on faisait, c'est que à un moment donné, on s'échangeait les feuilles, moi je lui ai donné les miennes, lui me donnait les siennes en quelque sorte, on discutait, on voyait, la trame du journal il l'avait parce que je l'avais rédigée, et la trame du déroulement du journal je l'avais parce que, ça avait été conçu avec lui, avec Pierre Géraud, etc. On ne déterminait rien à l'avance. Alors, on n'avait pas de prompteur, d'une part, c'était une libération totale.
Vous non plus donc, pas de prompteur?
Ah non, jamais. Et on ne déterminait rien à l'avance. C'était pas toi, tu vas faire le Conseil des ministres, toi, tu vas faire le conflit en Iran. Et on le décidait au fur et à mesure, pendant le journal. C'est ce qui faisait que, il y avait un petit truc, un petit challenge, comme ça. C'est-à-dire, alors, soit pendant un sujet, on disait, tu prends la suite, ou autre. Ou alors, il suffisait qu'on se retourne. Mais alors, au fait, alors, un jour, il m'a fait le coup, Raymond Barre, qui avait dit, ah oui, la politique, c'est de la ratatouille. Puis, il s'arrête, il me dit, et la recette de la ratatouille? Et je lui ai donné la recette de la ratatouille. Mais ça, on ne l'avait pas prévu. Voilà. Alors, en même temps, il fallait se donner des limites. On ne pouvait pas faire ou dire n'importe quoi. Parce que sans se prendre au sérieux et sans prendre l'information au sérieux, il ne fallait pas non plus décrédibiliser l'information. Est-ce qu'on pouvait dire. Mais on pouvait se permettre des clins d'œil. Et ça, c'était... vous avez parlé de Jaruzelski tout à l'heure. Ça s'est décidé cinq minutes avant de descendre à l'antenne. Parce qu'on devait avoir Jaruzelski en direct, on ne l'a pas eu, et Yves était furieux. On apercevait une image de Jaruzelski qui était de l'autre côté de la scène. Et là, il dit, c'est pas possible. Et donc, il avait son impair, on trouve des lunettes, des machins, des trucs. Il descend et me dit, écoute, tu me dis, mais ça, on l'a décidé cinq minutes avant l'antenne. Jamais c'était prévu dans la conférence de rédaction.
Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faisait pas d'infospectacle, il mettait l'info en scène. Vous êtes d'accord avec ça? Cette nuance-là?
Oui, tout à fait.
Bon, c'est très bien.
Oui, bien vu.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Marie-Laure Gris, on dit parfois des choses, on ne sait pas si elles appartiennent à la légende ou à la réalité. On disait qu'il arrivait très souvent à 11h du matin sans avoir beaucoup bossé. Est-ce que c'est vrai ça?
Il n'arrivait pas à 8h, je le confirme.
Donc 11h moins 5 alors.
Voilà. Non, il pouvait arriver à des heures tout à fait normales, honnêtes. Ça pouvait lui arriver d'arriver un peu plus tard. La seule chose, c'est qu'on aurait pu le mettre sur le plateau, il faisait le journal. C'est-à-dire qu'il avait tout écouté, tout entendu, il avait déjà appelé 4 fois, il pouvait même appeler à minuit le soir parce qu'il avait rencontré telle personne, ça lui était arrivé pour Henry Kissinger par exemple, et en disant, au fait, demain matin il vient sur le journal, etc. Il avait les écoutilles en permanence, il était branché sur l'info en permanence et la réactivité en permanence. Mais c'est vrai que assister à toute la conférence de rédaction, il faisait de temps en temps, mais pas tous les jours, je le confirme.
Et est-ce qu'il avait des points forts dans le traitement de l'actualité? Chaque journaliste est plutôt plus à l'aise, par exemple, dans la politique, dans le sport, dans le diplomatique. Il avait comme ça une marotte ou une passion?
Alors,
La politique l'intéressait beaucoup, oui, la politique intérieure, la politique étrangère, et puis tout ce qui touchait au domaine de la culture. Et il avait raison de dire que le journal télévisé pouvait être un lieu, justement, d'ouverture à la culture pour des gens qui ne seront pas forcément allés sur une émission de niche culturelle, etc., et d'ouvrir... que ce soit dans le cinéma, la littérature, c'était une réactivité permanente.
Est-ce qu'il vous arrivait, j'imagine, souvent de vous dire tous les deux, bon ben demain on est viré quoi, on est allé trop loin. Les rapports avec la direction.
Oui non, ça se l'est dit beaucoup à partir de la privatisation.
Oui.
Avant non. Non, à partir de la privatisation, oui. Mais bon, ça, on savait. Enfin, je veux dire, on savait que ça durerait pas très longtemps.
Et quand Morosi arrivait avec un casque de chantier sur la tête, vous l'aviez aussi le casque?
Oui, oui.
Vous l'avez mis tous les deux?
Non, mais ça, c'est pareil. On l'a Alors, bien sûr, on l'a fait deux fois. On l'a fait la première fois où on a su que Bouygues candidatait. Donc, on avait trouvé, et on les a trouvés, les casques de chantier, dans l'atelier des décors de TF1. Hein. On n'en avait pas sous le coude. Et on l'a fait le jour où ça a été le résultat. Il y en avait un qui avait le casque Bouygues et l'autre qui avait le casque TF1.
Et apparemment, Bouygues n'a pas du tout apprécié. C'est ce qu'on dit. Si c'est le contraire,
non,
vous
très
me dites
franchement,
le contraire.
Il l'a pas reproché. Je pense que c'est beaucoup plus Patrick Lelay qui n'a pas apprécié que Bouygues.
C'est un baron de l'info la journée, ce Yves Mourouzi, et c'est un prince de la nuit. Est-ce que ça a déclenché des commentaires, des jalousies dans le milieu journalistique?
Oh, dans le milieu journalistique, oui, sans doute. Alors, je dirais Yves, en effet. Alors, et prenant de l'âge, il sortait moins quand même. Et le jeune père de famille est beaucoup moins sorti que 10 ans auparavant. C'était sa façon de vivre. Je pense qu'il a, moi, il me l'a toujours dit, qu'il ne vivrait pas vieux. La vie qu'il a eue, qui a quand même été une vie incroyable, faite de drames successifs, et qu'il, voilà, il mangeait la vie. Il avait envie de, il voulait pas perdre de temps, quoi.
Ah, il a fait sa vie un roman, c'est clair.
Il lui suffisait de faire une micro-sieste de 5 minutes pour récupérer si c'était couché à 4 heures du matin.
Bien, je parlais de l'information spectacle tout à l'heure et le regard que je posais là-dessus qui était contradictoire avec l'information spectacle. On va écouter Yves Mourouzi, ce qu'il en pense. Lui-même, c'était en 1985 au micro de Radio France Côte d'Azur. Ça s'appelait Radio France Côte d'Azur à l'époque.
Oui, avec vous Yves, et ne le prenez pas en mauvaise part, c'est un peu l'information spectacle quand même que vous jouez.
Mais je sais pas ce que c'est moi l'information spectacle.
Alors l'information...
Parce qu'on ne me l'a jamais défini l'information spectacle. En définitive, qu'est-ce que c'est que la télévision? C'est un spectacle pour tout. À partir du moment où il y a un écran, une image et des spectateurs devant, c'est automatiquement un spectacle. Même pour un type tout seul dans un fauteuil ou pour un type en uniforme devant un bureau et devant une caméra, c'est aussi un spectacle. Tout est spectacle en matière de télévision. À partir du moment où le regard est attiré ou sollicité, c'est du spectacle.
Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah, il a raison.
Bon, voilà. On l'a dit tout à l'heure déjà, mais c'était bien de l'entendre le dire lui-même.
Oui, tout à fait. Bon, il avait une grande lucidité, il avait un sens de l'actualité et de l'info. Il savait anticiper les modes et les comportements.
Et justement, Si sa vie est un roman est fait d'ombre et de lumière, de contraste. On a parlé de sa gloire, on a parlé de ses drames et de ses drames intimes. Donc, il ne connaissait pas son père, il n'a jamais su qui était son père, hein, c'est ça?
Non, il n'a jamais
et
su qui était son père.
Vous avez senti que ça, là, c'est quelque chose qui le... Quel poids ça avait?
Il en parlait très très peu, il parlait de sa grand-mère, hein, qui l'a élevé. Mais de son père et de sa mère, il en parlait très très peu.
Sa mère,
il en parlait pratiquement.
Ouais. Sa mère, c'était délicat.
Il a très peu. Il y a une ou deux photos de lui dans les bras de sa maman quand il est tout petit, et c'est tout. Voilà. C'était sa grand-mère qui était son point d'ancrage.
Alors il y a aussi
qui lui faisait boire du sang de cheval tous les matins pour être en forme.
C'est vrai ou c'est une légende?
Non. Enfin, peut-être pas tous les matins, mais c'était son remède, oui. C'est ce que disait Yves. Et c'était pas une légende, je pense pas.
Quelle horreur. Alors, il y a aussi l'attentat chez lui, boulevard Suchet, en août 78. Alors ça, comment il l'a vécu? Mal, j'imagine. Mais comment il vous en parlait? Quel était son comportement?
En fait, on a su plus tard que c'était pas lui qui était visé. Vous parliez d'Eric Jung tout à l'heure.
Ouais.
Eric Jung a écrit un livre. Et là-dessus, il explique qu'en fait, c'était pas Yves qui était visé et que c'était lui qui, à ce moment-là, était commissaire et menait des enquêtes sensibles.
D'accord.
Et qui était chez Yves. Voilà.
Mais Eric Jung, qui a été journaliste à France
journaliste
Inter.
Journaliste à France Inter.
Dans les années 90, me semble-t-il.
Oui.
Je m'ai croisé.
Il était un grand journaliste à France Inter. Il l'a vécu, enfin, c'est comme un traumatisme, bien évidemment. Surtout qu'il n'a pas compris. Mais en effet, vous l'avez dit tout à l'heure.
S'il n'a pas compris, il n'était pas visé, voilà. Il ne le savait pas.
Ben oui.
Alors, il y a aussi en septembre 86 le meurtre de Lolo, hein, son secrétaire et maître d'hôtel qui était à son service depuis 4 ans. Là encore, c'est un sacré coup ça.
Ben oui, Yves et Véro n'étaient pas là, ils étaient dans le sud de la France, ils étaient en vacances. Et en effet, Lolo a été assassiné dans l'appartement. Et on n'a jamais su ce qui s'était passé.
Et quelles questions ça a généré chez lui?
Alors Yves l'a appris alors qu'il était sur la route, il conduisait. Il met un flash, il devait écouter...
France Inter, allez.
France Inter, oui, parce qu'il était très attaché à France Inter. Et il apprend que Lolo, on l'a retrouvé mort chez lui. Il a failli rentrer dans le fossé.
Alors un attentat, la mort d'un proche, ça fait beaucoup quand même.
Oui, bon. Oui, oui.
Et alors arrive en 81, la gauche au pouvoir, donc il est maintenu, Yves Morousi. À quoi c'est dû? Pourquoi est-il maintenu? Simplement parce qu'il a du talent? Parce que les gens l'aiment bien ou c'est pour autre chose?
Je pense qu'il a du talent, les gens l'aimaient bien et ont compris que c'était difficile de le mettre à l'écart.
C'est-à-dire, François Mitterrand n'a pas dû le regretter.
Non, hein, pas parce du qu'il tout. Était... Non, et puis il avait des bonnes relations. Mais Yves, il a toujours eu des bonnes relations avec...
Tous les présidents.
Avec les politiques. Oui.
Autre question qu'on se pose souvent pour tout le monde et pour un journaliste, même si on ne devrait pas avoir la réponse d'ailleurs. Mais enfin, maintenant, Morousi était-il de gauche ou de droite? Certains le qualifient d'un art de droite, c'est ce concept très commode quand on a du mal à se placer quelque part, mais plus précisément.
Je ne saurais pas répondre s'il était de gauche ou de droite. Yves, il avait des convictions qui étaient liées aux individus. À ce qu'ils étaient, à ce qu'ils représentaient, à leur parcours, là où ils pouvaient se retrouver. Voilà, il avait une curiosité des choses, des gens, il prenait, interviewer Georges Marchais, il pouvait prendre autant de plaisir d'interviewer Georges Marchais que Valéry Giscard d'Estaing, et il s'intéressait à la politique et à la chose politique. Il avait en effet, à un moment, plus ou moins envisagé une carrière dans la diplomatie, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça n'a pas duré très très longtemps. Tout ce qui touchait, en effet, la politique...
Il aimait les idées, mais pas les idéologies, c'est ça?
Ouais, il aimait les idées, il aimait pas les idéologies.
Bon.
Et il n'était pas sectaire, hein, ça là-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et au final, d'autres sont sectaires. C'est le retour de la droite au pouvoir en 86 qui va sceller son sort. Et Mitterrand, apparemment, il ne peut plus rien pour lui, puisqu'à partir de 86, François Mitterrand n'a plus la réalité du pouvoir, sauf pour la défense nationale et pour la diplomatie. Comment ça s'est passé, ça? C'est vraiment politique, c'est lié vraiment à la politique ou pas?
Son départ en 86? Non, bon, bien sûr que non. C'est lié à une volonté de la chaîne. Nous, on savait que le sort était, qu'on était là pour un temps limité.
Ouais.
Parce qu'on représentait l'avant et pas le maintenant. Et puis, voilà, le caractère un peu indiscipliné et le trésor étant considéré par les nouveaux arrivants comme un état dans l'état, ça ne pouvait
ça comptait,
plus cohabiter.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Marie Rogret.
Merci beaucoup.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Yves Morousi, en roi de l'info, non pas spectacle. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Juliette Petit.